Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des éditions départementales, une édition spéciale élections législatives que j'ai l'honneur et l'avantage de présenter aujourd'hui. Je présente aujourd'hui notre dernier candidat en lice qui est Lucien Maillet qui représente les Patriotes, parti fondé par Florian Philippot qui fut longtemps l'éminence grise de Marine Le Pen. Alors la première question elle est toute simple, qui êtes-vous Lucien Maillet? Parce que vous n'êtes pas chartrain, parisien d'origine. Et vous avez choisi, enfin en tout cas, on vous a demandé, missionné pour investir cette première circonscription d'Eure-et-Loir.
Bonjour, je m'appelle Lucien Maillet, j'ai 67 ans et je suis retraité de l'éducation nationale. Je suis venu à Chartres à la demande des Patriotes et je l'ai fait avec plaisir.
Comment êtes-vous arrivé aux Patriotes? Alors l'éducation nationale, généralement, allez, je vais être gentil, 50% qui votent socialiste ou qui votaient socialiste.
Alors effectivement, je vais faire mon mea culpa, j'ai bien voté socialiste à une certaine époque, mais le socialisme maintenant n'est plus le véritable socialisme, c'est finalement un socialiste woke à l'américaine. Maintenant, pour ma venue aux Patriotes, c'était par indignation après le discours d'Emmanuel Macron sur la vaccination, le discours du 12 juillet. Je suis donc allé à la première manifestation qui a suivi, celle du samedi suivant.
Oui. Et qui était donc conduite et organisée par les Patriotes. Hein,
c'est ça. Évidemment.
Oui, les Patriotes ont été très actifs, Florian Philippot, pour ce combat contre l'obligation vaccinale. Et c'est encore dans votre programme, je cite, « Le libérer la France de la tyrannie sanitaire ». On y reviendra. Je voudrais simplement que vous nous expliquiez ce qu'est le souverainisme, puisque avant toute chose, Florian Philippot se définissait lui-même, il se définit toujours comme souverainiste.
Eh bien, le souverainisme, c'est un courant qui est pour la grandeur de la France telle que l'a concevée le général de Gaulle, c'est-à-dire un pays maître de ses frontières et surtout également maître de sa monnaie. Si on n'est pas maître de sa monnaie, on n'est pas maître de son destin.
Les Patriotes sont finalement le troisième parti, je ne sais pas si je dois le qualifier de nationaliste d'ailleurs, vous me direz oui ou non, de la droite nationale, on va dire, à se présenter sur la première circonscription d'Eure-et-Loir, parce que ça ne fait pas beaucoup, trois candidats, avec celui de Reconquête et du Rassemblement national.
Non, parce que nous sommes les seuls vrais souverainistes. Et pour être souverainiste et pour appliquer notre programme, il faut bien poser la question de notre présence dans l'Europe, et plus encore de notre présence dans l'OTAN.
Oui. Alors le fait que justement Zemmour, ancien souverainiste, Marine Le Pen qui le fut à l'époque justement de Florian Philippot, ont abandonné, est-ce que ça vous interroge pas ça finalement? Ils ont peut-être pensé, considéré que ce n'est pas possible.
À mon avis, je dirais, je vais être peut-être méchant, qu'ils sont plutôt à la chasse aux électeurs.
Oui.
Ils essaient de devenir des partis de gouvernement. Mais moi je pense que c'est une grave erreur. Il faut croire... Aux idées que l'on défend.
Vous avez tout de même l'ambition de pouvoir être député de cette première circonscription.
Ah, ça serait mon vœu le plus cher. Mais si je me présente, c'est plutôt déjà pour défendre nos idées et pour nous ancrer dans le paysage politique au niveau national.
Alors, les idées directrices du programme, je suis allé me promener sur le site des Patriotes. Donc, j'y ai découvert effectivement libérer la France de la tyrannie sanitaire. Ça veut dire quoi au juste? Est-ce que ce combat, finalement, n'est pas un combat d'arrière-garde, on ne parle plus tellement du vaccin. La pandémie est en train de s'éteindre gentiment, là. Je croise les doigts et je touche du bois, mais tout de même, ce n'est plus vraiment sur le devant de la scène.
Oui. Alors, la pandémie est peut-être en train de s'éteindre, mais les achats de vaccins par l'Union européenne sont loin de s'éteindre. Ils en ont précommandé ou commandé 4 milliards 200 millions pour toute l'Europe pour les deux prochaines années. On a fait le calcul, ça fait 9 injections pour 2 ans. Pour tous les habitants de l'Union européenne.
Oui.
Ça fait 4 injections par an. Et ça va coûter, comme dirait Macron, qui aime beaucoup cette expression, un pognon de dingue.
Ouais.
Parce que ça fait 280 millions de doses pour la France chaque année. À 20 euros la dose chez Pfizer, ça vous fait 5 milliards 600 millions de dépenser. Sans parler les frais des vaccinodromes, les personnels, etc. Enfin, j'en passe, quoi.
Ouais. Parce que tyrannie sanitaire, c'est pas un peu fort, parce que finalement, le vaccin, il a permis, sinon, d'enrayer la pandémie, du moins, d'amoindrir les effets secondaires de la maladie, non ?
On ne le pense pas vraiment. Il y a de plus en plus les effets secondaires, on en parle de plus en plus. Et quand on parle du bénéfice-risque du vaccin, maintenant, moi, ma formule, c'est que le bénéfice est pour le laboratoire qui le vend et le risque est pour le vacciné. Il y a tout de même 80 000 pages qu'un juge américain a fait publier. Quand on lit le nombre des effets secondaires et la fréquence et la force de ces effets, ça donne vraiment pas envie de se faire vacciner.
Enfin, les effets secondaires du Covid peuvent être eux aussi très, très désagréables. J'ai un voisin qui a passé 6 semaines dans le coma, par exemple, et qui est extrêmement diminué. Donc, est-ce que quand même, là, il n'y a pas... J'aime pas beaucoup ce mot-là, conspirationnisme, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas là-dedans une forme de conspirationnisme par rapport au vaccin, là ?
Non, mais... Bon, personnellement, je ne suis pas anti-vaccin. Moi, j'ai mon DTP à jour. Ouais. Mais je pense que chacun, pour chaque vaccin, doit se positionner s'il veut le prendre ou non. Vous vous rendez compte qu'on a été interdits, les non-vaccinés ont été interdits de tout, à part de prendre les transports pour aller travailler. Plus de cinéma, plus de loisirs, plus de café, plus de restaurants, plus de vie associative, plus de vie sportive. Mais c'est terrible, ça s'est jamais vu dans l'histoire de la médecine.
Mais ce fut une parenthèse.
Une parenthèse qui peut-être qui va se réouvrir étant donné les achats massifs de vaccins par l'Union européenne, comme je viens de vous le dire.
Alors, autre chose, c'est le Frexit. Donc, c'est un mot que vous employez. C'est-à-dire que vous projetez de sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Et beaucoup de gens disent que quand même sortir de l'euro risque de ruiner ou en tout cas d'appauvrir considérablement les épargnants français.
Bon, alors il faut tout de même bien être clair dans une chose. Par exemple, les Britanniques ont quitté l'Union européenne. Vivent-ils plus mal ? On nous avait dit qu'ils allaient mourir de faim, qu'ils allaient venir demander l'asile politique en France. S'ils vivaient plus mal actuellement, toute la presse aux ordres subventionnés, ça serait en pleine page dans les journaux et à tous les journaux télé. Ça, je peux vous le garantir. Maintenant, il y a d'autres...
Il y a l'euro aussi, par rapport aux Anglais...
Oui, mais on peut très bien vivre avec une autre monnaie que l'euro. Bon, sans vouloir parler de la guerre, regardez la Russie, qui est maître de sa monnaie et qui est maître de son économie. On a voulu la mettre à plat, enfin Bruno Le Maire a voulu la mettre à plat et disait que dans 3 semaines, elle serait out. Eh bien, le rouble se porte mieux que jamais. Donc il est possible d'avoir une monnaie nationale et qui fonctionne.
Néanmoins, la plupart de ceux qui militaient pour la sortie de l'euro, je pense notamment à Jean-Pierre Chevènement, savent que ça coûterait beaucoup plus cher finalement de sortir de l'euro que de s'y maintenir, notamment pour les gens qui possèdent un compte en France. Quoi, voilà.
Oui, non, mais c'est un grave problème qu'on ne peut pas résoudre en 2 jours. Il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent que l'euro est une monnaie surévaluée par rapport aux possibilités de l'économie française. L'euro est faite, je dirais, par les Allemands et pour les Allemands. Sorti de ça, c'est une monnaie qui ne correspond pas à grand monde.
Alors, dans votre programme également, il y a la restauration de la souveraineté populaire. Quelles seront les mesures que vous souhaitez prendre pour...
Eh bien, la souveraineté populaire passe par le référendum d'initiative citoyenne.
Le RIC.
Le fameux RIC, voilà, oui. Qui est dans notre programme.
Qui est proposé par les écologistes aussi. Hier, nous avons eu Quentin Guillemin qui parlait d'adopter le RIC, qui est vraiment transpartisan, du coup.
Oui. Bah, certains autres partis ont des éclairs de lucidité. Que voulez-vous que je vous dise ?
Et autre chose, je crois qu'il y a une réforme du Conseil constitutionnel également qui est prévue.
Écoutez, c'est tout de même... Comme conflit d'intérêts, je ne vois pas mieux. Laurent Fabius, dont un de ses fils est payé par McKinsey, quel est le plus beau conflit d'intérêts qui puisse exister ? Donc il va falloir changer le Conseil constitutionnel par quelque chose d'autre. Ça me paraît évident. Pardon.
Nationalisation de certaines banques ?
Oui, ça me paraît une évidence. Les banques, finalement, maintenant, sont des organismes privés, qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires et ne rendent plus véritablement un service public.
Augmentation des salaires, la lutte contre l'évasion fiscale. Vous souhaitez qu'on sorte de l'OTAN, même dans ce contexte-là, actuellement, vous pensez que c'est...
Surtout sortir de l'OTAN. L'OTAN, tel qu'il est, va nous conduire à la guerre. Moi, je suis effrayé par ce qui se passe. On fournit des armes à l'Ukraine. D'ailleurs, l'OTAN, qu'est-ce que c'est, à l'origine ? Ça veut dire « Organisation du traité de l'Atlantique Nord ». Est-ce que l'Ukraine se trouve en Atlantique Nord ? Est-ce que les États baltes se trouvent en Atlantique Nord ? L'OTAN n'avait plus de raison d'être à partir du moment où le pacte de Varsovie et l'URSS avaient cessé d'exister. Là, c'est une véritable provocation contre la Russie. Et j'ai peur qu'on soit entraîné à terme dans une guerre. Notez bien que les Américains ne veulent pas intervenir directement. Finalement, Joe Biden se battra jusqu'au dernier européen.
Les problématiques de l'Eure-et-Loire, il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Les problématiques de l'Eure-et-Loire, bon, elles sont à peu de choses près les mêmes que partout ailleurs sur le territoire français, notamment le pouvoir d'achat, évidemment. Avec l'augmentation du prix de l'énergie, etc., on s'aperçoit que c'est de plus en plus difficile. Le caddie lui-même, comme on l'appelle, le caddie est de plus en plus cher. Les Français ont du mal à s'en sortir. Une certaine catégorie de Français, du moins.
Oui. Les plus modestes comme nous, effectivement, ont du mal à s'en sortir. Moi aussi, je vois bien, quand je fais mes courses, que ça a augmenté. Donc il faut déjà baisser les taxes sur les carburants. Ça me paraît évident, parce que on nous dit « prenez les transports en commun ». Mais dans l'Eure-et-Loire, il n'y a pas des transports en commun partout. Avec toutes les fermetures de gares et autres, comment voulez-vous que les gens aillent en transport en commun? Et puis tout le monde n'a pas envie d'aller à vélo.
L'offre médicale, ça c'est un problème récurrent, notamment en Eure-et-Loire. On est pratiquement les moins bien pourvus en France. En tout cas, la région Centre-Val de Loire, mais singulièrement l'Eure-et-Loire également.
De toute façon, oui, effectivement, la lutte contre les déserts médicaux est pour moi une priorité. Déjà, il va falloir réintégrer tous les soignants qui non vaccinés. Ça me paraît déjà une première mesure. Ça ne suffira pas. Il faut augmenter également les places dans les écoles de médecine. Il faudrait également, là je parle à titre personnel, je ne sais pas si le parti me suivrait dans cette problématique, par exemple, payer aux nouveaux médecins qui veulent s'implanter dans un désert médical, leur payer leurs frais d'installation dans un cabinet, avec contrepartie, par exemple, un engagement décennal. Il faudrait peut-être majorer le coût de leur consultation, surcoût qui serait pris en compte par l'assurance maladie. Ouais. Moi, je trouve tout de même inadmissible qu'à l'heure actuelle, des femmes ne trouvent plus de maternité et accouchent dans leur voiture.
Une dernière question. C'est quoi un bon député, selon vous?
Alors, un député, c'est un député déjà qui se trouve bien à l'Assemblée nationale, quand il y a des sessions, qui participe à l'élaboration des lois, qui les vote, qui est présent déjà, présent et sincère. Et le reste du temps, qu'il soit dans sa permanence électorale, à l'écoute de ses concitoyens.
Lucien Maillet, merci beaucoup. C'était donc la dernière intervention dans le cadre de cette élection législative 2022 sur la première circonscription de Eure-et-Loire. Vous retrouverez les interventions de tous les candidats sur notre site www.radiorentiel.fr. Merci beaucoup, Lucien Maillet.
Je vous remercie.
Sur mon radeau, je t'entraîne, sur mes ailes de phalène, sur mes paupières, je t'emmènerai. Sur mon coursier, je t'emmène, sur la mer à perdre haleine, sur ma bouche, je t'emmènerai. Accroche-toi à mes rêves et rentre très loin, dans ce village tout près de mes reins. Ces neiges de l'Ukraine, sur mes hanches je t'emmènerai. Sur mon planeur je t'emmène, sur les ailes de mon air pleine, sur mes chevaux je t'emmènerai. Accroche-toi à mes rêves, nous irons très loin, dans ce village tout près de mes reins. À la dérive de la Seine, sur mes cahiers je t'emmènerai. Sur mon radeau je t'entraîne, sur la mer à perdre haleine, sur ma bouche je t'emmènerai.